Cette fête est immense, mais en Occident, on en méconnaît souvent le sens profond. Parce qu'en Occident, on a oublié la tradition concernant Marie, la Théotokos. C'est important de rappeler des éléments de et la Vierge et de ce qui s'est passé à ce moment-là. En grec, le terme est plus beau qu'en latin, c'est evangelismos, l'annonce de la bonne nouvelle. C'est le début de l'évangile. La Vierge Marie est une toute jeune fille. Nous connaissons des éléments de sa vie par un apocryphe qui est le proto-évangile de Jacques et l'équivalent latin qui s'appelle le pseudo-Matthieu. Toute notre tradition concernant Marie et Joseph vient de là et aussi Joachim et Anne. Lorsqu'elle est sortie du... Lorsqu'elle se trouvait dans le temple... D'une façon tout à fait miraculeuse. Lorsqu'elle est devenue femme, les prêtres ont demandé à Dieu ce qu'il fallait faire. Et Dieu indiquait qu'il fallait la confier à un vieillard qui la protège, qui protège sa virginité. Et le sort, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a choisi Joseph, qui était un vieux monsieur. Il était veuf, il avait des enfants. Ce qu'on appelle les frères de Jésus, c'est ses demi-frères. Mais ils ont 20 ou 30 ans plus que lui. Quand il avait 30 ans, ils avaient au moins 50 ou 60 ans. Et donc Joseph a la garde de cette jeune vierge, qui est la Vierge du Seigneur. Ils vont habiter Nazareth, qui est un petit patelin de la Galilée. Et vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de détails très importants dans cet évangile, qu'on ne parle pas du tout de Joseph. La tradition nous dit qu'il n'était pas là, parce qu'il est dit dans le texte, ils sont fiancés, ils ne vivent pas sous le même toit. Donc ils habitent sûrement pas loin, mais ils ne vivent pas sous le même toit. Marie se trouve donc dans cette maison et on est au sixième mois. Le sixième mois, c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste, il est le précurseur, donc il sera le précurseur en tout. Il était conçu six mois avant la conception miraculeuse de Jésus en Marie. Donc on est au sixième mois. C'est très important cette chose-là, parce que six, c'est le nombre de l'homme. Le sixième jour, l'homme a dit à Dieu, « Non, je ne veux pas t'aimer. » C'est ça le péché de l'homme. Je ne vais pas passer au sept. Je vais m'occuper de mes petites affaires. Sixième mois. C'est-à-dire qu'on est dans le rachat de l'homme. C'est Marie qui va racheter Ève. Alors, il y a quelque chose d'intéressant entre cette très vieille dame qui s'appelle Élisabeth et cette toute jeune fille de 15-16 ans qui s'appelle Marie. Élisabeth est âgée et stérile. Elle représente le vieux monde. L'homme déchu. Bien que ce soit des justes, Zacharie et Élisabeth, mais il représente le vieux monde. Le monde qui est vieilli par le péché, on l'est dit, qui n'a pas engendré. Engendré le Messie. Marie est une toute jeune femme. Les apocryphes ne sont pas toujours d'accord, mais elle a 15-16 ans. Elle est vierge. Elle représente le monde nouveau, le monde renouvelé, le monde, selon Dieu, toujours jeune. On ne vieillit pas dans le royaume de Dieu et toujours fructueux. Le monde, selon Dieu, est fécond. C'est deux mondes différents. On a la rencontre entre ces deux femmes. Après cet évangile, Marie va vite aller voir sa cousine. Elles se rencontrent. Mais on laisse ça pour une autre fois. Et ça se passe en Galilée, à Nazareth. Et c'est très intéressant, cette chose-là. J'ai cherché dans mes livres l'étymologie de Nazareth. On ne la connaît pas. C'est un patelin paumé. C'est le plus petit patelin de la Galilée. La Galilée des nations, ce monde mélangé, il y a des juifs, il y a des gens qui descendent des Assyriens, il y a des Grecs, il y a des gens qui pratiquent le culte des idoles. C'est le monde déchu. Vous avez vu que cette annonce qui est la plus belle de toute la création, elle ne se passe pas à Jérusalem, qui symbolise le royaume de Dieu. Dans ce qu'il y a de pire, la Galilée, parce que le Seigneur, il va venir pour sauver l'homme tel qu'il est, déchu. Vous vous souvenez de Nathanaël, quand on lui parle du rabbi de Nazareth, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce machin-là, Nazareth ?» Parce qu'un vrai juif, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, il ne peut rien sortir de bon. » Ça, c'est intéressant. La plus belle chose de toute la création va se passer dans un truc minable. C'est un bel enseignement spirituel. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Nazareth, la faiblesse de l'homme. La puissance de Dieu va se manifester dans la faiblesse de l'homme. Et un ange entre dans la maison et il apparaît à la Vierge. L'ange Gabriel, c'est un séraphin. Un ange du premier ciel, du premier cercle, la première sphère céleste, ceux qui sont tout à fait autour du trône du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez vu, on a chanté le Trisanguion. C'est ça qu'ils chantent devant le trône de Dieu, les séraphins. Les séraphins sont toujours là pour les grandes œuvres, pour ce que Dieu veut, pour les grandes choses. Et il entre dans la maison et il la salue. Alors, déjà, quand on dit que le séraphin Gabriel entre dans la maison, c'est une réalité objective et c'est symbolique. Parce que Dieu va entrer dans la maison de Marie. Il va habiter dans son corps. Il entre dans la maison. Et il lui fait une annonce, une salutation qui est tout à fait extraordinaire. Salut Marie, comblée de grâce. Pleine, c'est remplie, comme un vase qui est rempli d'eau. Le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire que tu n'es pas séparé de Dieu, vous êtes ensemble, unis. Extraordinaire salutation. Unique dans toutes les critères. Et l'évangile que vous avez entendu tout à l'heure, il est mal traduit. J'étais furieux que j'ai entendu. Il y a une erreur de traduction très grave. Marie n'est pas troublée par la vue de l'ange. Elle est troublée par le contenu de ses paroles. Elle dit, pourquoi est-ce qu'il me dit cela, moi qui ne suis rien? Pourquoi est-ce qu'il me dit quelque chose d'aussi beau? Moi qui ne suis rien, moi qui suis la plus petite des créatures. Marie n'est pas troublée par la vue de l'ange parce que la tradition nous enseigne que lorsqu'elle était dans le temple de Dieu, elle était nourrie par la main d'un ange. Elle est familière du monde angélique, Marie. Mais elle est troublée par le contenu de la salutation. Vous avez remarqué que Marie, elle est assise. C'est une vierge royale, elle est sur un trône. C'est pas une petite jeune fille, un genou comme ça, très dur, cette vie. Elle est royale. C'est l'ange qui s'incline devant elle. L'ange du Seigneur, la Vierge royale. On la représente souvent en train de filer la peau pour devenir l'Écriture. Voilà quelque chose qui est tout à fait intéressant au plan spirituel. Les pères de l'Église, mais je me souviens surtout de Jean, disaient cette chose très très importante à propos de Marie. Marie évite deux écueils. Les deux grandes tentations de l'homme, elle évite l'orgueil et le désespoir. Vous avez vu qu'elle ne bondit pas de joie en se disant « Ah, ça y est, enfin c'est arrivé. J'ai fait tellement d'efforts, j'ai eu des mérites. » Elle ne bondit pas de joie, mais elle ne s'enfuit pas du feu. Elle ne se dit pas « C'est trop dur pour moi ce truc-là, c'est pas de moi. » Vous avez vu, elle évite l'orgueil et elle évite le désespoir. Nos deux grands péchés. L'orgueil, je suis au-dessus de Dieu. Et le désespoir, il n'y a pas de Dieu. Dans les deux cas, l'homme exclut Dieu. Elle ne fait rien. Elle ne bouge pas. Mais elle est légitimement troublée par le contenu. L'ange la rassure. Vous avez remarqué que quand le doute est pur, Dieu donne une réponse. Puis l'ange lui apporte le message de Dieu. Il lui explique qu'elle va concevoir, elle va avoir un fils, ce sera le fils de Dieu. Marie reconnaît tout de suite les paroles du prophète Isaïe, parce qu'elle connaît l'Écriture par cœur. C'est la prophétie d'Emmanuel. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom de Dieu Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Vous avez vu? Le Seigneur est avec toi. Dieu avec nous. Et non. Elle écoute, elle reconnaît la prophétie d'Isaïe. Vous avez remarqué, elle est tout à fait extraordinaire, cette Vierge. Elle ne discute pas sur les paroles. Elle ne discute pas la parole de Dieu. Mais elle dit seulement, comment cela se fera-t-il quand je ne connais point d'homme? Et ça, elle avait le droit de le faire. C'est légitime. Elle accepte la parole de Dieu, mais dit, comment je suis vierge? Il était légitime qu'elle demandât comment. Et quand notre question légitime, Dieu répond. Et le Seigneur répond par la bouche de l'ange. C'est l'Esprit Saint, le souffle du Père, celui qui procède du Père, qui va venir en toi. C'est la fonction hypostatique du Saint-Esprit que d'être en. C'est lui qui vient en nous, et nous sommes en lui. En. C'est Dieu qui pénètre tout et qui remplit tout. Il va venir en toi et il accomplira les miracles. Marie sera fécondée de Dieu, par Dieu. Elle apporte la partie humaine de la semence et le reste vient de Dieu. L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et c'est parce que le Saint-Esprit va descendre en toi que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, Fils du Père. Maintenant qu'on lui a dit comment, Marie dit oui. Vous avez vu? Pas de discussion, pas de chichi, pas de littérature. On n'est pas dans le sentimental. On n'est que dans la relation spirituelle. Et elle dit oui de deux façons. Elle dit d'abord, je suis la servante de Dieu. J'obéis à Dieu. Ève n'a pas obéi à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. J'obéis à Dieu. Et aussitôt après la joute, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Vous avez remarqué que Marie n'a pas dit, je vais le faire, mais qu'il me soit fait. Mais vous savez ce qu'elle a dit? Que ta volonté soit faite sur la terre. Marie accomplit la troisième demande du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est ça, c'est Marie la Théotokos. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une admirable synergie entre Dieu et l'homme. C'est la coopération libre de deux volontés, divine et humaine. Marie pouvait dire non. Bien sûr qu'il faut dire non, mais il était parfaitement libre. Mais le but de notre vie n'est pas de dire non à Dieu. Le but de notre vie, c'est de nous mettre en accord avec lui. Et comme l'évêque Jean le faisait remarquer très bien dans son commentaire sur le Notre Père, l'obéissance à Dieu n'est pas de la résignation. C'est « je veux ce que tu veux parce que je t'aime ». Je mets toute mon énergie à faire ce que tu veux. Toi et moi, nous sommes un. L'union libre de deux volontés, ce que nous appelons la synergie. L'incarnation du Verbe s'est faite parce que cette fête pour les orthodoxes et pour toutes les églises indivises, c'est aujourd'hui la fête de l'incarnation du Verbe. C'est l'incarnation, la conception immaculée du Verbe de Dieu en Marie, qui fit Adam et Ève. C'est ça, attention, c'est très important ça. L'incarnation du Verbe s'est faite lorsqu'il y a une femme capable de dire oui. Dieu n'a pas choisi la date à l'avance. Il a attendu 2000 ans après Abraham pour qu'il y ait une fille d'Abraham qui fasse ce chemin. Il a attendu qu'une personne féminine qui soit prête et qui dise oui, qui rachète elle. Marie a dit oui pour toute l'humanité. Elle a dit oui pour nous tous. Nous lui donnons tous quelque chose. Toute la création, y compris le monde angélique, doit quelque chose à la Théotokos. Voilà pourquoi nous la vénérons tant. Et à Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.